l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence, aux portes du Tarn, 97.9.
Et aux portes du sanctuaire de Lourdes, il est 12h passées de 1 minute où se trouvent les studios de Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous sur les fréquences de Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, c'est le Présence Midi, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Au sommaire, dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard. C'est Pierre Antonin qui sera à son micro. Il a créé un éco-pâturage dans la belle vallée d'Argelès-Gazost, plus précisément à Arcisan-Avant. Le coup de cœur en librairie nous sera proposé par le frère Martin de l'abbaye de Tournai. Croire, qu'est-ce que ça change ? Élément de réponse avec lui dans quelques instants. Nous aurons évidemment le journal de la mi-journée aux alentours de 12h30, puis viendra la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie consacrée au tiers-lieu Amasat qui est situé à Lourdes. Et enfin, les écrivains dans les Pyrénées, c'est une nouveauté avec Catherine Albrecht. Elle nous proposera de découvrir quelques écrits de Otto von Bismarck qui s'est rendu dans nos belles Pyrénées. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble, que je vous souhaite très agréable et surtout si vous êtes à table, profitez-en bien. Bon appétit à vous tous. Voici le titre des informations de ce vendredi 10 juillet.
Bonjour à tous, près de 5000 supporters ont célébré hier soir à Toulouse la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Le risque d'incendie reste très élevé en Occitanie. Plusieurs communes du Midi toulousain annulent leur feu d'artifice du 14 juillet par mesure de précaution. Les fortes chaleurs favorisent également le développement des cyanobactéries dans certaines rivières et plans d'eau. Les spécialistes appellent à la vigilance, notamment pour les chiens. Près de Toulouse, un cambriolage a permis à des voleurs de dérober près de 200 000 euros de bijoux dans une maison de Sail. Enfin, le Tour de France a offert hier une spectaculaire étape de montagne entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Voilà pour les titres de l'actualité.
Les titres qui seront développés tout à l'heure aux alentours de 12h30. Et effectivement, le Tour de France est passé. C'était une belle étape quand même dans notre région. C'était à souligner. Et ils sont tous partis. Ça libère un petit peu quand même la circulation sur nos routes.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Première chronique de ce Présence Midi, la chronique verte de Benoît Guillard. Il nous amène dans la belle vallée d'Argelès-Gazost.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons comme chaque semaine à la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller sur un petit village à côté d'Argelès-Gazost, qui s'appelle Arcisan-Avant. Et à Arcisan-Avant, je suis allé à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Pierre Antolin, qui a un projet qui me paraît très intéressant d'éco-pâturage. Bonjour Pierre, peut-être deux mots de présentation ?
Oui, bonjour. Donc Pierre, oui, moi je suis un ancien chargé de mission en développement de projet, en communication et Voilà, j'ai travaillé dans des collectivités, dans des associations, et voilà, ça fait une dizaine d'années aussi, j'étais passionné par l'agriculture et l'élevage, et j'ai sauté le pas il y a plus d'un an, où je me suis formé, j'ai passé le BPREA, et par conviction sur aussi la préservation de l'environnement et par passion avec l'élevage, j'ai décidé de monter une société d'éco-pâturage.
Quel âge vous avez, Pierre ?
40 ans.
Pierre a 40 ans, donc c'était un bel âge pour se projeter sur un avenir différent. Pierre Antolin, donc l'éco-pâturage, c'est quoi ?
Alors l'éco-pâturage, c'est une méthode ancestrale d'entretien des espaces verts qui a été un petit peu perdue à un moment donné. On a mis en place plutôt de la tonte mécanique, mais ça revient petit à petit. Et l'idée, c'est d'entretenir les espaces verts d'une manière écologique, par le pâturage d'animaux herbivores. Donc pour moi, ça sera les moutons et les chèvres.
Alors je crois que c'est pas n'importe quel mouton, si j'ai bien compris, hein. Ce sera plutôt une race locale.
Oui, l'idée c'est de préserver aussi des races un peu menacées qui sont pas forcément très productives, mais qui sont parfaites pour l'éco-pâturage. Donc l'idée c'est de travailler avec les brebis lourdaises et les chèvres des Pyrénées.
À qui ça s'adresse l'éco-pâturage aujourd'hui ? Qui est intéressé ? Qui est peut-être intéressé ? En fait, qui vous voyez ?
Alors, l'idée en tout cas de cette société, c'est de travailler avec les entreprises et les collectivités. Donc ça peut être les entreprises telles que Carrefour, Veolia, ça peut être Jiffy, ça peut être Decathlon, ça peut être des entreprises qui ont de l'espace vert, qui actuellement travaillent avec des sociétés de tonte mécanique. Et l'idée, c'est de remplacer cette tonte mécanique par des brebis, plutôt une manière écologique.
Alors, on va prendre un cas concret, si vous voulez bien, Pierre. Donc, moi, j'ai un espace, je suis dans une commune, j'ai un espace vert à entretenir. Comment ça se passe ? Je vous contacte, dites-moi.
Oui, alors l'idée, c'est de me contacter. Et ensuite, je me déplace. D'abord, il y a un petit entretien pour évaluer les besoins, voir un échange, me présenter, se présenter pour qu'il y ait aussi un petit rapport de confiance et de rencontres, de présentations. Et ensuite, je réalise un audit, une étude personnalisée sur l'espace, voir le type d'herbe, la taille de la surface à entretenir. Et après cet audit, on se met ensemble encore avec le directeur, on met une convention ensemble, on écrit une convention qui est sur mesure. Et l'idée ensuite, c'est de mettre en place une clôture fixe avec piquet bois, grillage, et de réaliser une cabane, une petite cabane pour les brebis avec récupérateur d'eau, abreuvoir. Et ensuite, on sélectionne les animaux, donc soit brebis si c'est que de la prairie, on peut mettre des chèvres s'il y a des ronces, des ligneux, etc. Et on met en place un calendrier pour amener les brebis avant le printemps, par exemple. Là, on fait venir la presse, on travaille avec les chargés de communication pour justement cette communication qui est très importante pour l'entreprise et pour la société. Et ensuite, nous, le travail de berger, c'est des visites régulières sur le site pour le suivi sanitaire, le bien-être des animaux, faire un petit peu de pâturage tournant pour faire reposer la terre s'il y a quand même des grandes surfaces. Et ensuite, pour... qu'est-ce qu'il y a d'autre, le vétérinaire, soins. Ensuite, on peut mettre en place des animations aussi régulières, démonstrations de tonte de brebis, démonstrations de chiens de troupeau, avec des bilans assez réguliers pour voir un petit peu comment se place l'éco-pâturage. Mais c'est des conventions qui sont généralement de 3 ans, mais tout ça est fait sur mesure avec le client.
Pour qu'on soit bien avec nos auditeurs, bien imaginer ce que ça peut être. On peut dire que, par exemple, on peut faire entretenir une bordure de rivière, on peut faire entretenir une zone industrielle avec des espaces importants, on peut faire entretenir un parc, on peut faire entretenir des espaces verts organisés par les comités de communes, on peut faire entretenir aussi, tous les espaces verts disponibles d'une façon écologique.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de remplacer vraiment la tonte mécanique ou d'entretenir des espaces qui sont pas forcément très bien entretenus. Et du coup, c'est des friches qui se mettent en place ou des ronces. Et l'idée, c'est plutôt d'entretenir avec cette méthode alternative. Donc, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, les entreprises, mais bien sûr les collectivités qui des fois font appel pour les entretenir ou qui ont des zones en pente, qui ont des zones difficiles d'accès. Ça peut être aussi des zones pour EDF, hein. Voilà, c'est assez varié et assez intéressant pour ses clients.
Et alors, comment vous faites le calcul de la charge à l'hectare, si on peut parler un peu technique, c'est-à-dire combien il faut de moutons à l'hectare à peu près ?
Alors disons qu'on calcule, ça dépend de l'herbage, de la zone, de la période, mais sinon, un petit ratio, c'est une brebis pour 1000 m². Donc si on a un hectare, c'est 10 animaux. Mais après, on régule aussi en fonction des saisons. On va en rajouter peut-être au printemps, en enlever dans l'hiver ou l'été quand il fait sec. Faire un petit peu de pâturage tournant aussi pour faire reposer les terres.
D'accord. Alors c'est quoi la surface minimum pour pouvoir organiser un éco-pâturage pour votre entreprise ?
Nous, on commence à partir de 1500 m².
Donc, chers auditeurs, si vous avez plus de 1500 m², que vous en avez marre de pousser la tondeuse ou de dépenser du carburant pour la tondeuse, vous pouvez tout à fait faire appel à Pierre Antolin, puisque 1500 m², c'est pas énorme. Hein. Pierre, vos espérances sur le futur, sur le développement, vous voulez vous développer loin de chez vous, puisque Pierre habite à côté d'Argelès, et vous voulez donc développer sur quel délai?
Alors déjà, l'idée c'est de rester quand même dans le local, de travailler localement et de développer les services donc dans les Hautes-Pyrénées. L'idée c'est de trouver quand même un maximum de clients en termes d'entreprise, de collectivité et en espérant avoir un associé ou salarié d'ici 2 ans. Mais en restant quand même une société à taille humaine et en restant proche de ses clients.
Oui, donc Pierre, bravo. Hein. Moi, je trouve que c'est un beau projet, c'est une belle initiative. Donc, on rappelle le nom de la société qui s'appelle Pyrénées Pâturage. Le concept, c'est l'éco-pâturage dans les Hautes-Pyrénées. L'idée rentre bien sûr dans les axes que nous développons tout au long de cette chronique. Développement durable, biodiversité, lien social, pédagogie, préservation des races menacées comme la lourdaise. Donc je trouve que c'est un bon projet. Vous êtes un professionnel de copâturage et vous êtes au service de tous. Nous donner vos coordonnées si un auditeur voulait vous contacter.
Oui, alors vous pouvez me joindre directement au 06 72 77 79 56.
Et Pierre, vous êtes accessible aujourd'hui assez rapidement. Je sais que vous êtes en train de courir les espaces pour trouver un petit peu des marchés. Donc, on peut vous joindre facilement quand même.
Oui, je reste disponible. Pas de problème.
Bon, en tout cas, merci encore. Je trouve que c'est une très belle initiative que l'initiative de Pierre Antolin. Je rappelle pour mes auditeurs, nous nous situons à côté de Argelès, à Arcisan avant. Et Pierre développe une activité d'éco-pâturage sur le territoire. Donc il s'est mis au service du territoire avec des moutons de race lourdaise. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter. En tout cas, merci Pierre et bonne chance. Au revoir.
Oui, merci, au revoir.
Présence. Durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence. Présence.
Et voilà, c'était la chronique verte de Benoît Guillard, une chronique que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, radioprésence.com, dans la rubrique culture, bien sûr. Dans quelques instants, nous allons parler également culture avec le coup de cœur en librairie du frère Martin de l'abbaye de Tournaille.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is 2 bare feet.
Présence.
Présence.
Les vacances, un temps sacré pour réécouter le meilleur de notre programme.
Les vacances, un temps sacré pour réécouter le meilleur de notre programme.
Présence.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs.
C'est reparti pour une nouvelle chronique littéraire. Alors cette fois-ci, cette semaine, eh bien, vous allez nous parler d'un ouvrage qui va faire le lien avec un ouvrage dont vous nous aviez parlé le mois dernier, qui s'appelait « Maman voudrait que je croie ». Et cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'un ouvrage « Croire, qu'est-ce que ça change ?» C'est son titre. C'est un livre écrit par Marion Muller-Collard. Il s'agit donc d'une vision d'une femme sur la foi. C'est intéressant.
Oui, c'est une femme théologienne, mère de famille, et qui est protestante et qui est responsable des éditions en ce moment, Labor et Fides, qui est un éditeur qui est à Genève, mais qui est beaucoup diffusé en France.
Et donc qui édite ce livre, Croire, qu'est-ce
voilà,
que ça change.
Tout à fait.
Alors dans ce livre, qu'est-ce qu'on va découvrir et comment on peut faire le lien avec cette question de la foi, cette approche de la foi dont on parlait le mois dernier avec le livre « Maman voudrait que je croie ». Là, on va un peu plus loin, de quoi s'agit-il ?
Maman voudrait que je croie en Dieu », c'était le témoignage d'un jeune qui va vivre une expérience personnelle pour vivre sa foi et du coup entrer dans une autre dynamique. Et dans le thème du croire, ce qui m'a paru intéressant, c'est comment rendre compte à quelqu'un de mon expérience de la foi et rendre compte du croire. Et donc ce livre est suscité par une question du fils de Marion Muller-Collard qui justement lui dit « Mais voilà, maman, éclaire-moi, dis-moi qu'est-ce que c'est quoi ?»
Ok, il y a un côté autobiographique même, enfin elle part de son expérience.
C'est de son témoignage et du moins de la question de son fils, et c'est intéressant, elle dit qu'au lieu de lui avoir répondu, elle a écrit ce livre pour lui répondre. Elle ne lui a pas répondu sur le moment où vous verrez, elle a botté en touche quand tu lui as posé la question.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de pudeur quand on parle de sa foi.
Voilà, ben justement, c'est parce que c'est pas si évident parler de sa foi. C'est une expérience personnelle. Et donc, quelquefois, les mots qu'on peut mettre dessus peuvent être réducteurs. Et donc, c'est d'abord une expérience qu'on vit. Et c'est moins une expérience qu'on peut écrire et dont on peut rendre compte d'une façon, j'allais dire, rationnelle. Voilà.
Et même en en rendant compte, le témoignage de sa propre foi reste vraiment unique. Enfin, même au sein d'une même famille, on peut avoir des manières bien différentes de vivre sa foi.
Tout à fait. Et même dans une communauté, on est plusieurs moines et chacun vit la règle de Saint-Benoît là où il en est, avec ce qu'il est. Et voilà, dans une famille, chacun vit... Tout le monde peut être croyant, et puis chacun vit sa foi là où il en est, en fonction de son expérience, en fonction de sa vie, quoi, voilà.
Alors, le mot expérience est intéressant parce qu'il y a cette notion, alors peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est scientifique, mais enfin, il y a ce terme d'expérience, cette notion d'expérience de la foi. Ça veut dire qu'on ressent aussi des choses plus ou moins fortes. Ça ne se passe pas que dans le cœur ou que dans la tête. Parfois, on ressent les choses dans son corps, vraiment.
Oui, tout à fait. Et puis aussi, l'important, c'est comment chacun vivre sa foi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quoi. Ça veut dire, certains vont être dans de la lecture de livres, plus méditation de la parole de Dieu, le chapelet, enfin, vous voyez, ce qu'on appelle la piété populaire. Enfin, chacun va avoir un point qui lui correspond plus. Et donc, en fonction de nos âges aussi et dans nos vies, dans notre évolution, l'expérience du croire va changer.
Comment comment à travers ce livre, Marion Muller-Collard répond-elle à son fils ? Elle met en scène des personnages ou elle parle de ce qu'elle a dans le cœur ?
Alors, elle parle de plusieurs points, notamment elle évoque un peu longuement la rencontre de Jésus et de Thomas. Et ensuite, elle parle d'expérience mais de ses lectures, de son travail intellectuel et puis aussi de sa pratique dans la vie ou de témoignages qu'elle a entendus. Et donc, je trouve qu'il y a un côté intéressant parce qu'elle s'appuie vraiment sur des témoignages et sur des rencontres qu'elle a faites au cours de sa vie. Et donc, ça rend le livre vivant parce qu'on suit quelque chose, quoi.
Alors, pourquoi elle utilise cette rencontre de Jésus et Thomas ? Qu'est-ce que ça vient apporter à sa réponse, en fait ?
Eh bien, justement, la rencontre de Jésus et de Thomas est intéressante puisque Thomas est absent le soir de Pâques, de la première visite de Jésus, et il a besoin de voir. Et donc, elle creuse comment est-ce que le voir la preuve peut entraîner notre foi. Et
elle, ça, c'est scientifique.
Voilà, et oui, ou du moins vivre une expérience qui va nous conduire à avoir la foi. Mais à la fois, elle met aussi le bémol qu'on ne croit pas tout seul. Et peut-être parce que Thomas est avec les autres, et parce que les autres ont déjà reconnu dans celui qui vient, Jésus, le ressuscité, eh bien, lui aussi va croire parce qu'il y a, d'autres qui vont dans son sens. C'est intéressant, c'est une expérience personnelle, mais qui est aussi reliée à l'expérience d'autres personnes.
Donc ça, c'est l'Église, en fait.
Tout à fait. Et c'est ce qu'elle développe ensuite dans le compte-rendu là, des personnages scientifiques qu'elle a rencontrés. Elle évoque, ce qui est intéressant, longuement, un médecin en Autriche qui se pose des questions parce qu'il y a beaucoup d'infections dans cet hôpital. Et il constate qu'en fait, les jeunes médecins en formation ont plus de problèmes, déclenchent plus d'infections que les gens, que les sages-femmes, parce que c'est un service d'accouchement, qui sont là. Et alors, ils s'interrogent, ils regardent ce qui se passe, et en fait, ils comprennent qu'avant, souvent, qu'ils aillent en salle d'accouchement ou tout ça, ils ont eu un cours d'anatomie et de dissection. Et donc, c'est là qu'il va déduire qu'en fait, il faut se laver les mains, prendre des précautions, voilà. Et la parole qu'il va dire, parce qu'il croit que c'est ça, il, à l'époque, il n'arrive pas tout à fait à le démontrer, c'est un constat qu'il fait, et bien, il va, justement, sa parole va être mise en doute par des gens plus haut que lui, et alors qu'il avait une idée juste, elle va être contrecarrée, quoi.
Ah oui, voilà. C'est un petit peu ce qu'expérimentent les catholiques, parfois.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, elle cite aussi l'expérience de scientifiques qui, dans leur recherche, ben, ils ont une idée, ils croient que c'est peut-être ça, ils y vont, et elle dit que même des fois, ben, ils croient tellement qu'ils n'arrivent pas à voir que leur expérience est ce qu'ils cherchent, et bien en fait, c'était pas bon, quoi, parce que justement, ils croient tellement que c'est ça qui est la bonne solution, et puis en fait, ils découvrent comment.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que il faut chercher, mais en même temps, il faut aussi juste se contenter parfois de recevoir, ne pas toujours être en train de chercher plus loin,
voilà.
Il ne faut pas tout le temps creuser pour avoir la foi.
Oui, il faut à la fois creuser et pas creuser. Je voudrais citer quelques lignes de Marion Muriel Collard. Croire nous tient au seuil de l'inconnu en vertu du mouvement instinctif qui vise à ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu. On a tôt fait de forcer la croyance pour qu'elle devienne un savoir. Je sais, affaire classée. Je crois, affaire inclassable. Voilà. Ça nous donne vraiment un éclairage sur le propos de son livre.
Donc il y a quand même l'importance de la transmission, mais il y a une part qu'on ne peut pas transmettre et qui se reçoit pour chacun dans son intimité avec Dieu, en fait.
Tout à fait.
Est-ce que la maison d'édition, donc Labor et Fides, ça n'est pas anodin que cet ouvrage-là paraisse dans cette maison d'édition-là? Je crois que
Parce qu'elle est protestante théologienne, et donc évidemment que c'est à Genève et c'est leur maison d'édition, entre guillemets, quoi.
C'est un livre facile à lire pour l'été. Vous me disiez en arrivant en studio qu'il était pratique, léger, facile à emporter en vacances.
Voilà,
c'est important
tout à fait.
De le dire puisque les vacances démarrent.
Et il y a des chapitres, vous pouvez lire chaque chapitre tranquillement et séparément. Il y a vraiment, c'est une lecture qu'on peut prendre et reprendre. Et à la fois, le texte est aussi puissant et fort, et il amène aussi à beaucoup de réflexions. Il peut y avoir une lecture informative, mais si on creuse vraiment, c'est vraiment profond et on peut vraiment aller loin avec ce livre.
Quel public ?
Alors, je dirais plutôt des gens qui déjà ont une expérience, mais des gens qui ont déjà une culture et qui intellectuellement ont une certaine démarche, même s'ils ne sont pas croyants ou très convaincus, ils peuvent vraiment rentrer dans ce livre et ça va leur amener une réflexion. Quoi. Parce qu'elle cite souvent, vous voyez, des personnages scientifiques, elle cite des philosophes, elle ne cite pas que la parole de Dieu. Et donc, c'est vraiment une vraie ouverture qui permet un accès à des gens qui sont peut-être un peu loin de la foi, mais qui ont une vie culturelle et qui peuvent rentrer dans ce livre.
Croire, qu'est-ce que ça change, de Marion Muller-Collard, paru aux éditions Labor et Fides. Ça coûte 10 euros, facile, transportable, pour l'emmener en vacances, très pratique. Et voilà.
Et puis c'est une petite collection où, si vous êtes intéressé, c'est des petits livres comme ça, où on traite aussi de la naissance, du cerveau, de la Bible, de la ferveur, de la maternité, de la promesse, enfin, beaucoup de petites choses de la vie. Et ça peut être un petit livre qui nous invite à réfléchir pendant les vacances, voilà, à travers cette collection.
Qu'on ne mette pas tout sur pause pendant les vacances, qu'on en profite pour lire un petit peu et faire un petit tour à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles, où vous serez là pour accueillir les personnes et leur proposer de bonnes idées de lecture.
Voilà, et surtout qu'en plus, pendant l'été, au mois de juillet et août, nous sommes ouverts tous les jours, même le lundi matin. Donc, vous n'avez pas à vous poser de questions. On est ouvert tout le temps pendant le mois de juillet-août.
Merci beaucoup, frère Martin.
Merci à vous et bonne lecture.
Voilà, c'était le frère Martin de l'abbaye de Tournailles. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de passage dans notre région, ou même si vous en faites partie, si vous êtes habitant de cette belle région de la Bigorre, n'hésitez pas à vous rendre dans cette belle bibliothèque de l'abbaye de Tournailles, où le frère Martin se fera un plaisir de vous accueillir. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two. Belle journée à l'écoute des programmes de présence. Il est 12h passé de 30 minutes. C'est l'heure de passer à table. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Nous sommes en plein cœur de ce Présence Midi que je vous propose de poursuivre avec les informations de ce vendredi 10 juillet.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, le risque d'incendie reste particulièrement élevé en Occitanie. Conséquence, plusieurs communes du Midi toulousain ont décidé d'annuler leur feu d'artifice du 14 juillet. Une décision prise par précaution face à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Les autorités appellent chacun à faire preuve de la plus grande vigilance. En Aveyron, un agriculteur a tout perdu dans l'incendie de sa bergerie. Le feu a détruit le bâtiment et emporté l'ensemble de son troupeau. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du sinistre. sinistre, tandis qu'un élan de solidarité s'organise autour de l'éleveur. La chaleur favorise également le développement des cyanobactéries dans certaines rivières et certains plans d'eau. Ces bactéries peuvent être dangereuses, notamment pour les chiens. Les spécialistes recommandent d'éviter de laisser boire ou se baigner dans une eau suspecte. Dans le reste de l'actualité, près de Toulouse, un important cambriolage a été commis dans une maison de Sail. Les voleurs sont repartis avec plus de 200 000 euros de bijoux avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte pour les retrouver. En sport, le Tour de France a offert hier une spectaculaire étape pyrénéenne entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Les coureurs ont franchi notamment l'école d'Aspin et du Tourmalet avant une arrivée en altitude. Enfin, direction l'Aveyron, le village de Conques est au cœur d'un nouveau téléfilm policier. L'intrigue mêle meurtre, reliques volées et vitraux de Pierre Soulages, une figure emblématique de l'Aveyron, avec pour décor l'un des plus beaux villages de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Et retour de l'information à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Dans les médias, eh bien c'est la chronique solidaire de Anne Deloy.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, nous voici de nouveau pour l'émission Solidairement Vôtre. Et j'ai la joie d'accueillir cette semaine encore Camille Fourtine et Michel Gazot, tous les deux engagés à l'Amassa de Lourdes, ce tiers-lieu que vous connaissez peut-être en centre-ville de Lourdes. Alors Camille et Michel, tout simplement, je vais déjà vous demander, qu'est-ce qui a fait que l'un et l'autre vous soyez engagés dans ce style de lieu? Quelles sont les valeurs que vous portez l'un et l'autre? Camille, vous êtes coordinatrice de l'Amassa.
Tout à fait. Bonjour et bonjour à tous. Alors pour moi, Amassa est très important dans ma vie parce que pour moi, c'est un peu le pendant de ce vers quoi la société nous emmène malgré nous, c'est-à-dire un peu... les gens se renferment, on en parlait tout à l'heure avec Michel, on utilise énormément l'informatique, l'intelligence artificielle pour trouver des réponses, même j'entendais une émission sur France Culture pour avoir de la compagnie. On sent qu'il y a quand même beaucoup de repli aussi. Et donc, Amassap se propose d'être un lieu de lien. Amas veut dire ensemble.
Voilà, c'est ça qui est beau, c'est que c'est ensemble en occitan.
Exactement, c'est ensemble en occitan. Et donc c'est un lieu qui, en plus de créer du lien, travaille aussi tout l'axe de l'autodétermination, de retrouver des savoirs, de savoir utiliser ses mains, de passer du temps ensemble, de se réunir autour de projets, de rencontrer des migrants venus de l'autre bout du monde et des personnes porteurs de handicap, des gens qui viennent travailler. Donc on a une mixité sociale forte et on porte des projets, que ce soit au niveau écologique ou au niveau d'inclusion sociale.
Donc c'est un public aussi très divers qui fréquente votre lieu. Donc vous nous avez parlé de migrants, de travailleurs. Il y a aussi, je crois, des personnes en situation d'handicap.
Tout à
mais
fait.
Qui peuvent même vivre sur place.
Oui, puisqu'au premier étage, nous avons une colocation de porteurs de handicap. Au dernier étage, nous avons une colocation de personnes âgées. Et donc, par exemple, aux soirées, nous allons les chercher pour qu'ils profitent aussi de ces moments. Ils ont une zone de repli rapide, donc c'est toujours intéressant d'avoir un tiers-lieu et ces lieux qui font venir la population très proche de là où sont des personnes qui ne pourraient pas aller à l'autre bout de la ville en toute autonomie.
Et Michel, alors, vous êtes bénévole depuis quand dans cette association ?
Depuis vendredi dernier.
C'est tout récent, hein, donc ça veut dire que c'était fin novembre.
Oui, c'est ça, fin novembre. Pour des ateliers qu'on a choisis avec Amassa de répéter deux fois par mois, tous les vendredis, de 14h30 à 16h30, les premiers et troisièmes vendredis du mois.
Et c'est un atelier très pratique puisqu'il s'agit de répar café.
Voilà, c'est le répar café. Donc il y a bien les deux mots. Moi, je mettrais café en premier parce que c'est le lieu de la rencontre,
la convivialité,
de la solidarité, de la rencontre physique avec les personnes. Vous voyez, le café, on peut pas prendre un café sur son smartphone. Mais justement là, on a un lieu où on rencontre vraiment des personnes. Et puis le deuxième, c'est répar, mais répar dans le sens qu'on va réparer des objets des objets domestiques qui ne fonctionnent plus et qu'on n'a pas de solution de réparation, que la société ne sait pas nous réparer ou ne nous permet pas de réparer, on n'a pas les réparateurs sous la main et on est prêt à les jeter alors qu'on sait statistiquement que 60% des objets qu'on jette seraient réparables.
Et oui, et puis c'est pour faire front aussi à l'obsolescence programmée.
Alors évidemment, on va constater, ça c'est un autre aspect de la réparation, c'est bien sûr d'abord réparer l'objet, mais on va analyser, faire le diagnostic de la cause de la panne, et on va voir que effectivement, dans la majorité des cas, on est confronté à une obsolescence, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que dans la conception même de l'objet, on a mis des pièces de fragilité qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, l'objet va casser, alors que tout le reste pourrait encore fonctionner. J'ai eu une petite expérience, puisqu'on l'a lancé l'autre vendredi, une dame qui vient avec un mixeur, de qualité, qui ne fonctionnait plus. On l'ouvre et on s'aperçoit que entre le moteur et vous voyez tout ça, le mixeur avec oui. L'hélice, la lame, il y a une pièce en matière plastique qui fait le raccord entre les deux quand on branche oui. Le pied dessus. Et cette pièce, au bout de quelques petits efforts, fini par se chauffer et fondre autour de l'axe. Donc vous avez une pièce qui coûte 50 centimes d'euros et qui n'est même pas possible de mettre dessus parce qu'elle était sertie, fondue sur le métal. Donc on se trouve dans une situation où une pièce de 50 centimes va permettre de jeter un objet qui coupe, qui fonctionne très bien, le moteur.
Et qui a une fonction très importante justement, essentielle dans le fonctionnement du mixeur.
Ben oui, exactement. Et là, on s'est trouvé donc face à la prise de conscience visuelle d'une anomalie. Quand je dis il y a une réparation à faire, ce n'est pas simplement l'objet qui t'a réparé. C'est la société elle-même qui a un problème, qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société pour aboutir à des situations comme ça.
Et justement, Michel, quand je vous entends me dire tout ça, je suppose que si vous êtes engagé dans cette association AMASA, en proposant cet atelier de réparation, c'est que ça correspond fortement à des valeurs que vous avez en vous, puis à une façon de vous engager vraiment dans la société pour qu'elle soit plus solidaire, quoi. Qu'est-ce qui vous touche réellement, vraiment dans cette association ?
Je vous dis, c'est la possibilité de... On va prendre le cas précis des gens qui sont comme moi, ont envie de réparer les objets qu'ils utilisent. Mais cette communauté, elle n'existe pas. On est dans l'ourde, on est chacun confronté à ce problème d'objets qui ne fonctionnent plus. Mais... On est enfermé sur nous-mêmes. Ouais. Il n'y a pas de mur qui nous sépare, mais il n'y a rien qui nous connecte.
On est des individus, les uns à côté des autres, et l'aspect, comme vous dites, communautaire, il faut vraiment le trouver, exprimer.
Oui. Il faut le trouver ou le construire, c'est le cas d'AMASA, mais quand justement il y a une structure qui existe déjà, c'est providentiel, et on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir se rencontrer. Et vous voyez, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Parmi les participants de ce premier Répar Café, il y a une personne, un migrant de Biélorusse, qui ne parle, je pense, il parle 10 mots français. C'est extrêmement difficile de pouvoir entamer une relation avec une personne qui parle aussi peu. Mais avec les outils que j'ai amenés et qu'on partage, et les objets qui sont là, on a un langage commun. Les outils, l'objet, tous ces éléments-là font partie de notre langage commun.
Exactement.
Il n'y a pas besoin de mots pour travailler ensemble. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a même plus la barrière de la langue.
Et voilà, c'est très beau, merci. Alors Camille, d'autres exemples d'ateliers qui sont proposés au sein d'AMASA ?
Oui, tout à fait. On a les ateliers jeux de société tous les mercredis après-midi.
Alors, c'est pour des enfants ou des familles ?
Enfants, familles, personnes âgées, seuls, porteurs de handicap, migrants, tout le monde est bienvenu de 3 à 99 ans.
Alors, des jeux de société ou...
On a plein de jeux de société différents. On va aussi en louer à la médiathèque. On fait en fonction des besoins. Parfois, Eric construit des grands jeux en bois. On met en place des thématiques. On a des liens avec le centre social où on va parfois animer avec eux. Donc, on est assez dynamique à cet endroit-là. C'est un atelier qui plaît beaucoup.
Et alors d'autres ateliers ?
Oui, on a des cours de couture avec Noémie, on a des ateliers créatifs, que ce soit la peinture, la création de bijoux. On a plein d'ateliers différents que vous pouvez trouver sur notre site amasa.org, donc A-M-A-2-S-A. On a des soirées culturelles, on a des jam sessions, donc des musiciens qui se retrouvent pour jouer ensemble. Le public, on peut venir aussi hein, tout à fait écouter, même si vous ne jouez pas, vous ne chantez pas. On a des soirées humoristiques tous les mois. On fait parfois des soirées théâtrales, musicales. L'idée, c'est que ce soit accessible à tous. Ces soirées, en général, c'est 2 à 3 euros l'entrée. Ensuite, on fait un chapeau pour les artistes quand il y a besoin. Les ateliers sont soit gratuits. Bon, il faut consommer au café associatif, hein, jouer le jeu du café associatif. Oui. Mais c'est soit gratuit.
Une petite participation, voilà, peut-être consommation, pour les fournitures qu'on a besoin.
Exactement. Participation libre à partir de 3 euros, à partir de 5 euros. Là, on va avoir un atelier maquillage par une professionnelle avant les fêtes de Noël pour apprendre à se maquiller, pour retrouver aussi un peu le goût de la féminité. On a aussi des ateliers, on a des cercles de parole handicap
visible.
Alors,
qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole ?
Alors, cercle de parole, c'est un endroit où les gens se retrouvent pour pouvoir partager des choses. Il y a des règles, en général, dans les cercles de parole. Nous, c'est un cercle de parole pour les handicaps visibles et invisibles. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin par rapport à ça, pour les mêmes raisons que citait Michel, c'est-à-dire que les gens sont chacun de leur côté. Le handicap est un sujet même tabou, compliqué au sein des familles, compliqué tout court, particulier. 80% des handicaps sont invisibles, donc en fait, il y a beaucoup de porteurs de handicap. Et donc, l'idée, c'est de partager ensemble sa réalité.
C'est des petits groupes de parole. Enfin, il n'y a que quelques personnes à chaque fois. C'est combien ? Une dizaine ou moins, peut-être, pour avoir la parole plus facile ?
De 6 à 12, d'accord. Mais c'est 12 maximum. Oui. On a quelques aidants familiaux aussi qui participent.
Ah oui, parce qu'il y a un animateur ou une animatrice de ce cercle de parole qui partage la parole ou que, parce que j'imagine que on peut pas laisser les gens forcément exprimer tous, bien là qui vont prendre plus la parole que d'autres. C'est pratiquement ça se passe comment ?
Tout à fait, c'est une bonne question et comme vous êtes animatrice radio, vous connaissez bien la problématique. Alors nous on a une timer. On a un petit timer qui fait un son très joli et au bout de 5 minutes, ça veut dire que s'il faut prendre un voilà, faut bientôt arrêter de parler. Ah, oui. Et ça permet de répartir la parole. Les règles dans un cercle de parole sont très importantes pour la fluidité du groupe et pour finalement la liberté de chacun.
Alors Camille, Michel, vous nous parlez donc de ces différentes activités. On sent qu'à la tête de chaque atelier, c'est des gens bah, qui ont certaines compétences, certains des passions, etc. Hein. Donc souvent peut-être aussi d'anciens retraités qui mettent leurs compétences au service de l'association. Vous avez peut-être besoin de bénévoles. Qu'est-ce que vous faites autour de la recherche de bénévoles ?
Alors merci de poser la question. Nous avons besoin de bénévoles. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider. Que ce soit au sein de l'association, à trouver des financements, pour l'administratif, pour nous aider à accompagner aussi les migrants au café associatif, puisqu'on les forme à savoir gérer plein de choses dans un café pour qu'ils soient un peu prêts au métier de l'hôtellerie quand ils se retrouvent à chercher du travail dans les hôtels. On a besoin aussi de personnes pour animer, on a besoin de personnes pour accompagner des bénévoles animateurs. Donc on a pas mal de besoins. Oui. On a aussi besoin de matériel informatique, on a besoin de matériel de couture. Donc ça, quand vous entrez au tiers-lieu, il y a un grand panneau avec ce dont on a besoin. Moi, je vous invite vraiment à venir découvrir le lieu, qui est un lieu très joli, très coloré, convivial, et dans lequel vous verrez tous les différents espaces et les propositions.
Alors, tous nos auditeurs sont invités justement à aller dans ce tiers-lieu qui se trouve donc près de la poste, en dessous de la poste. Ça s'appelle Amasa. Et puis, il y a le site internet amasa.org. Vous aurez beaucoup de renseignements. Et puis, on espère que nombreux seront ceux qui vont venir vous rejoindre dans ce tiers-lieu extraordinaire.
Je voudrais juste préciser que le café associatif est ouvert les mercredis de 9h à 18h et les vendredis de 14h à 18h. Et que le Ripar Café, animé par Michel et qui est extraordinaire, est deux fois par mois, donc deux vendredis, le premier vendredi du mois et le troisième vendredi du mois. Et vous pouvez venir avec votre objet, mais vous pouvez aussi venir observer et apprendre comment réparer les objets sans forcément avoir un objet.
C'est entendu. Merci Camille, merci Michel.
Merci et beaucoup.
Puis,
à vous.
Bonne continuation dans cette belle mission de solidarité. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Eh bien voilà pour une autre proposition de sortie et joindre l'utile à l'agréable pour ce tiers-lieu à Massat situé au centre-ville de Lourdes, juste à côté de la Poste. On continue en musique avant de retrouver Catherine Albrecht qui va nous parler des écrits de Otto von Bismarck consacrés à nos belles Pyrénées. Gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree all sing so merrily. I must confess that I'm slipping, but that don't bother me, 'cause confidentially I've got a dream that's a pippin. And when my day is through, each night I hurry to
dans la cité mariale 96.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains et d'hommes célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les sites pyrénéens fameux. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez aujourd'hui avec Otto von Bismarck. Otto von Bismarck est né en Prusse, à l'époque où l'Allemagne n'était qu'une confédération d'une quarantaine d'États confettis. Doté d'un physique de seconde ligne de rubis, au regard bleu acier, il se distingue dès ses premiers mandats au Parlement par ses discours violents. Les grandes questions de notre temps ne se décideront pas par des discours et des votes à la majorité, mais par le fer et le sang. Son but, l'unification allemande, avec les valeurs autoritaires et militaristes de la Prusse, se réalisera après la déroute française à Sedan et la proclamation du Deuxième Reich le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Quelques années auparavant, à l'été 1862, Bismarck, alors ministre de la Prusse à Paris, passe quelques jours de vacances à Biarritz. Il y fait la connaissance du prince Orlov, ambassadeur de Russie à Bruxelles, et de sa jeune femme Catherine, dont il tombe amoureux. Pendant ce séjour idyllique au bord de l'océan, il écrit plusieurs lettres à son épouse, restée en Allemagne, qui nous révèlent un personnage sensible et attentionné, à l'opposé de l'image publique détestable. Catherine Orlov n'y est sans doute pas étrangère. Bismarck est sous le charme des paysages et de la jeune Russe, accompagnant le couple sur la côte, mais aussi en randonnée, d'abord au Pays Basque, puis vers les grands sites pyrénéens. Gavarnie, le Pic du Midi, et finalement Luchon, où le trio arrive le 7 septembre pour quelques jours et s'installe à l'hôtel Bonne Maison. Conduits par le guide Bourdette, ils font les excursions au port de Vénasque, à Superbannière, au lac d'Eau. Puis c'est la séparation et le retour à Paris. Bismarck ne reverra plus la princesse Orlov, mais il gardera toute sa vie dans son porte-cigare la petite fleur cueillie à Superbannière et le brin de mousse ramassé au port de Vénasque avec Catherine. Avant-hier, partant d'ici, nous sommes montés au col de Vénasque. 2 heures à travers de splendides forêts de hêtres, pleines de rochers, couverts de lierres et de cascades. Puis un hospice et 2 heures de montée raide, à cheval, dans la neige, avec des vues lointaines, de calmes lacs profondément encaissés entre des champs de neige et des rochers à pic, à 7500 pieds, une porte étroite s'ouvrant dans la crête tranchante des Pyrénées. C'est par là qu'on entre en Espagne. Le pays des châtaigniers et des palmiers vu d'ici apparaît comme une cuvette rocheuse, entourée par la Maladeta que nous avions devant nous, le pic de sauvegarde et le pic de la Picade. À droite, les eaux coulent vers l'Èbre, à gauche, vers la Garonne, et jusqu'à l'horizon, glaciers et pics neigeux se dressent l'un derrière l'autre, au loin, jusqu'en Catalogne et en Aragon. Nous y déjeunâmes, appuyés un peu obliquement contre les rochers de perdrix rouges, sans selle et sans couteau, puis nous redescendîmes à cheval par des sentiers vertigineux, mais avec un temps splendide. Hier, nous avons fait une expédition du même genre à Superbannière et jusqu'aux portes de l'enfer, le gouffre d'enfer, dans les profondeurs duquel se précipite une magnifique cascade entre les hêtres, des châtaigniers et des frênes. Aujourd'hui, nous sommes allés voir le lac d'Eau, cuvette rocheuse qui rappelle le lac supérieur de Berchtesgaden, mais qui est animé par une puissante cascade qui s'y précipite. Nous y naviguâmes, chantant alternativement des chansonnettes françaises et du Mendelssohn, moi me bornant à écouter, puis nous rentrâmes par une pluie battante et nous voici séchés et affamés. Nous ne sommes jamais moins de 6 à 8 heures à cheval. Demain, la plaisanterie prendra fin. Demain, soir, nous serons à Toulouse. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Otto von Bismarck. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You give me all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see.
from A to C. My life was strong like a wind blows sand, and the rock was firm when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you. So true.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Un déjeuner avec Léon XIV, c'est ce qui attend 200 convives demain dans les jardins du palais apostolique de Castel Gandolfo.